Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est députée Les Républicains de l'Oise.
Bonjour à vous Éric Woerth.
Oui, bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Boris Johnson a annoncé hier qu'il suspendait le Parlement britannique pour 5 semaines, ce qui veut dire qu'on s'oriente vers un Brexit dur. En réaction depuis hier soir, un immense mouvement populaire au Royaume-Uni dénonce un coup d'État, un déni de démocratie. Craignez-vous que un séisme britannique qui pourrait cette fois sérieusement fragiliser l'Europe.
En fait, tout est surréaliste dans cette affaire, absolument tout, de la campagne sur ce référendum et l'aboutissement qu'on connaît sur le Brexit, après le comportement du Parlement avec une multitude de fractures qui dépassent les travaillistes et les conservateurs, le populisme derrière, les fractures avec les indépendantistes écossais, la première ministre écossaise est indépendantiste. L'Irlande qui est divisée en deux, dont une partie est en Europe. Enfin, bref, tout est absolument surréaliste. Les Anglais, la Grande-Bretagne vont beaucoup perdre à cela.
Alors on fait quoi? Parce que toutes les options ont été étudiées.
Cas,
est-ce qu'il faut relancer des négociations? Pour l'instant, Emmanuel Macron et Angela Merkel disent non. Qu'est-ce qu'il faut faire?
En tout cas, les Européens, avec Michel Barnier d'ailleurs en tête, les Européens ont proposé des solutions extrêmement précises, que Theresa May d'ailleurs était à peu près prête à suivre. Le Parlement n'en a pas voulu. C'est pas en supprimant le Parlement, puisque c'est ce que fait Johnson, dans un pays parlementaire, c'est l'histoire du parlementarisme. Oui. C'est assez étonnant comme comportement. Mais Boris Johnson lui-même, qui était plutôt quelqu'un qui était plutôt favorable à rester dans l'Europe, puis a commencé à porter le drapeau du Brexit à un autre moment, n'est pas une pirouette prête. C'est un coup de poker qui joue, mais qui joue pour lui-même, au fond, et pas tellement pour la Grande-Bretagne. Donc tout est totalement... C'est cul par-dessus tête, en vérité, cette affaire-là. On ne comprend rien, personne ne comprend rien. Dans cette affaire-là...
Et quand on comprend rien, on fait quoi? On dit stop.
On attend. Voilà. On attend. Parce que il faut garder sur la table les propositions européennes. Et puis, il faut surtout pas céder, évidemment, à Boris Johnson. Et puis, il faut garder aussi des relations extrêmement étroites avec la Grande-Bretagne, dont de toute façon, on aura besoin. Elle aura besoin de nous, quelles que soient les conditions de ce Brexit. Mais c'est assez triste et malheureux. Au fond, qu'un pays consacre autant d'énergie pour faire quelque chose d'aussi négatif, il y a, dans un monde difficile, il y a quelque chose qui va pas.
Encore une question européenne. C'est Sylvie Goulard, donc ex-députée européenne et éphémère ministre de la Défense, qui a dû donc démissionner parce qu'elle était citée dans des affaires. C'est elle qui a été choisie pour le poste de commissaire européen, peut-être au marché intérieur, si Dominique Seux a les bonnes infos. C'est un bon choix?
Oui, je crois que c'est un bon choix. Il y avait évidemment beaucoup d'autres choix. Heureusement qu'en France, il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse être commissaire européen. Il y avait beaucoup d'autres choix possibles. Mais c'est en soi un bon choix. C'est quelqu'un qui connaît l'Europe, qui a une expertise là-dessus. C'est quelqu'un de sérieux. Donc c'est évidemment un bon choix.
L'actualité en France et cette annonce du ministre de l'Éducation hier, Jean-Michel Blanquer, promet une hausse de 300 euros en moyenne du salaire annuel des professeurs en 2020, en plus des revalorisations spécifiques pour les enseignants en zone prioritaire. Est-ce que vous soutenez cette décision de...
Écoutez, il faut augmenter la rémunération des enseignants. C'est assez anormal de confier quasiment ce qui nous est le plus cher, nos enfants, là-dessus les Français sont à peu près d'accord, heureusement, et de confier leur avenir à des professeurs ou des instituteurs qui sont souvent assez mal payés quand on regarde les comparaisons européennes, on s'en aperçoit. Donc il faut évidemment augmenter la rémunération tout au long de la carrière
des enseignants. Même vous, vous dites ça, même vous, le grand gardien des dépenses publiques.
Oui, je le dis parce que je pense que c'est vraiment une priorité, mais il doit y avoir en échange un certain nombre d'autres chose, ça ne peut pas être totalement comme ça. Peut-être travailler plus, autrement, différemment, il y a d'avoir d'autres résultats, que les meilleurs profs enseignent aussi là où les enfants ont le plus de difficultés. Enfin, il y a beaucoup de contreparties et de contreparties positives à obtenir de cela. Ça veut dire aussi qu'il faut faire beaucoup d'économies par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut réduire le volume global, la quantité, enfin les effectifs de la fonction publique, il faut réduire les dépenses publiques.
Mais pas dans l'éducation nationale.
Non, pas dans l'éducation nationale. Donc il faut, c'est un ensemble. On peut pas dire 300 euros et puis on se verra plus tard. C'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner.
Alors travailler plus, les retraites. Vous aviez il y a 10 ans porté en tant que ministre une réforme des retraites. Que pensez-vous du changement de pied d'Emmanuel Macron, le président désormais favorable à la prise en compte de la durée de cotisation et non plus de l'âge de départ? Est-ce qu'il a raison?
Écoutez, le président a décidé une réforme des retraites, il a raison, il faut continuer à réformer les retraites. François Hollande l'a quasiment pas fait, on a perdu beaucoup de temps, il a augmenté les cotisations, la belle affaire, augmenter les impôts, tout le monde peut faire ça. Donc il fallait, après la réforme que j'ai portée avec Nicolas Sarkozy, il fallait évidemment continuer à faire ce travail, parce que les retraites c'est le reflet de la vie, c'est juste la vie, c'est pas un truc technique, c'est votre vie après le travail, donc ça veut dire beaucoup de choses. On est en train de parler d'hommes et de femmes, et de leur capacité à vivre après le travail, donc c'est beaucoup de choses.
Sur la
Est-ce que le système
de
était injuste? Le système n'était pas si injuste que ça, entre nous, je pourrais beaucoup développer cela, et pas si injuste que le dit le gouvernement. Mais aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye a beaucoup travaillé, a pris beaucoup plus de temps que les réformes que nous avons faites nous-mêmes. Beaucoup plus de temps pour sans doute beaucoup moins d'efficacité. Car la première des injustices, c'est de se poser la question de savoir si les retraites seront ou pas financées. La vraie injustice, ce serait que ce soit pas financé et que les générations futures payent de plus en plus cher pour leurs propres
parents. D'accord, pour l'instant, à l'heure actuelle, elle l'est financée.
Donc il y a un élément clé, c'est l'âge. Il y a un élément clé. C'est tout bête, j'aurais pas le prix Nobel de retraite dans ce domaine-là. Mais l'élément clé, c'est l'âge. Parce que à un moment donné, vous n'avez pas le droit de partir en retraite avant tel âge, donc vous ne décaissez pas, et donc vous encaissez des revenus.
Donc c'est une erreur de revenir sur l'âge pivot à 64 ans.
Oui, c'est une erreur de revenir. L'âge pivot, c'était déjà une sorte de tergiversation pour éviter de parler de l'âge, mais enfin, on en parlait quand même. Bon, mais au moins, il y avait une référence à l'âge, et au même pour tous. Le même pour tous. Mmh. Les 64 ans que prévoit, d'ailleurs, M. Delevoye le prévoit toujours, donc j'imagine que ce sera au débat, ça vaut pour ceux qui ont commencé tôt, comme ça vaut pour ceux qui ont commencé tard. Parce que quand vous êtes à 18 ans et vous commencez à faire vos études, vous n'êtes pas un vacancier. Vous n'êtes pas en train de rien faire.
Oui, mais
vous êtes en train
Emmanuel
d'augmenter
Macron
vos qualifications.
Emmanuel Macron craignait et craint des effets de seuil. Et il a écouté ceux qui, à la CFDT et ailleurs, lui ont dit que ça pouvait être très injuste.
Non, mais les retraites, c'est toujours des effets de seuil. À un moment donné, vous avez le droit de partir ou vous n'avez pas le droit de partir. Il y a un moment donné,
ça
les seuils...
Ça aurait pu pénaliser ceux qui ont commencé à travailler tôt.
Que le gouvernement fasse moins d'effets de seuil sur toute la fiscalité française. Il est normal de considérer qu'on n'a pas, les étudiants, quand on se qualifie, et la France a besoin de jeunes qualifiés, ont, au fond, le droit de partir à la retraite à un âge. Après, ils le font ou ils le font pas, il y a des décotes ou pas, c'est un autre sujet, mais l'âge unique de départ à la retraite, l'âge d'entrée dans les droits, c'est celui-là qu'il fallait bouger, et je suis persuadé, j'imagine que le débat le dira. Et on ne fait pas une retraite, une réforme uniquement parce que la CFDT pense autrement.
D'accord.
Mais j'ai beaucoup de respect pour la CFDT.
Oui, j'entends bien.
Gilet jaunéiser toute la société.
Gilet jaunéiser pour la CFDT, ouais, c'est pas tout à fait la même chose.
Je suis passé à autre chose. Toute la société. Ouais. Avoir peur non plus de réformes sociales lorsque c'est l'intérêt du pays.
Éric Woerth, la rentrée à droite est totalement éclatée cette année puisqu'elle se fait aux quatre coins de la France, entre l'université d'été à la Baule ce week-end, Brive-la-Gaillarde pour Valérie Pécresse vendredi, Nice pour Christian Estrosi, Bruno Retailleau qui fait ça de son côté, puis les jeunes LR au Touquet. Vous serez où? Où est la cohérence dans cette rentrée totalement baroque?
Moi, j'irai
de la droite
c'est assez beau l'art baroque souvent, ouais. mais c'était évidemment
c'est pas très efficace,
un peu chargé.
Là,
moi,
présentement politique.
Je serai au Touquet. Je vais chaque année intervenir au Touquet. Je n'irai pas aux autres réunions. Moi, en réalité,
ça vous attriste pas cette rentrée éclatée?
En fait, l'élection, comment pourrais-je dire les choses? L'élection ne m'intéresse pas. Cette élection
du président de LR
ne m'intéresse pas.
Ça intéresse vous beaucoup soutenez de monde, donc c'est Guillaume Larrivé.
J'ai parrainé Guillaume Larrivé. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai donné la possibilité à Guillaume Larrivé d'être candidat.
Guillaume Larrivé qui a déclaré hier qu'il était favorable à la suppression du droit du sol.
C'est un type très bien, Guillaume Larrivé. Il réfléchit et il pense que la politique, c'est d'abord au travers des idées. Et je pense qu'il a raison. Et autant, si vous voulez, l'élection ne m'intéresse pas, autant ce que nous disons m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Et nous devons réinvestir beaucoup, beaucoup de sujets pour parler aux Français.
La suppression du droit du sol, pardon.
Et l'avenir des Républicains, c'est ça.
J'entends, vous voulez
mais
pas
il
ne
le dit pas comme ça. La suppression du droit du sol, c'est un mixte, en fait, entre le droit du sol et le droit du sang. Aujourd'hui, quand vous êtes né en France, il faut que vous restiez 5 ans et puis ça devient automatique. Oui. On peut se poser la question si à 18 ans, ça doit être automatique ou pas. C'est des questions qui sont posées. Mais ce que nous disons est essentiel. Et les Républicains devraient devenir le parti de l'égalité des chances. Retrouver une véritable égalité des chances. Ne pas subir uniquement ce que nous sommes aujourd'hui et pouvoir progresser dans la vie.
En
et aujourd'hui,
10
la
secondes.
France n'est, n'est plus vraiment le pays de l'égalité des chances.
En 10 secondes, je ne vous laisserai pas partir, Eric Woerth, sans vous faire réagir sur cette chose assez drôle qui s'est passée cet été. Vous avez fait le bonheur de Twitter en postant une photo de vous faisant de l'escalade. Une petite photo de rien du tout qui a suscité des centaines de milliers, peut-être des millions de réactions, de détournements, de ricanements. On vous a accusé d'avoir truqué cette photo. Finalement, elle n'a pas été truquée. Ça vous inspire quoi? Ça vous a fait rire ou ça vous,
oui,
vous
ben, a tétanisé? Ça m'a fait rire moyen sur un certain nombre de points, mais je suis d'accord pour l'humour, je trouve ça extrêmement drôle, mais on est quand même dans un pays de malveillance. Les internautes, ça veut rien dire, il y a beaucoup de gens tordus d'ailleurs, et chacun en pâtit beaucoup, mais ce qui m'a plus étonné, c'est la caisse de résonance de la presse. Aucune distanciation par rapport à un micro-événement quand même, qui est une façon de voilà. En tout cas, vive la montagne, je l'ai dit hier, mais vive la montagne. Les pentes sont raides, vous savez, on a beaucoup les pentes sont raides, mais voilà, le chemin
Eric
est long.
Woerth en mode Raffarin, merci et belle journée à vous.
Merci Léa, à tout à l'heure.